Quel sentiment tu ressens?
J'aimerais faire une introspection.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde l'introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices, c'est l'heure du prêt-à-penser, votre rendez-vous psycho, un mercredi sur deux dans l'oreille curieuse. Je suis Nicolas, je suis psychologue clinicien et aujourd'hui, je vais vous parler du concept central de la psychanalyse, l'inconscient. Sur le plan historique, le concept d'inconscient a été identifié comme tel et conceptualisé entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle par le plus célèbre des psychanalystes, l'inventeur pour ainsi dire de la psychanalyse, Sigmund Freud. Alors l'inconscient, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais peut-être qu'il est plus compliqué d'en avoir une idée précise. C'est pourquoi je vous propose une brève présentation de ce que ce concept vient désigner et son rôle dans ce qui peut arriver à un niveau psychologique chez chacun. Posons comme point de départ que depuis que l'être humain est devenu un être de culture, ce qui le distingue de l'animal, il se pose pour lui la question de son identité, et donc de sa construction identitaire. Dès qu'il vient au monde, il se rend compte qu'il baigne dans un univers de langage parmi ses semblables, que ses semblables attendent quelque chose de lui, l'ont imaginé avant sa naissance, l'aiment d'une certaine manière, etc. etc. Bref, le petit homme arrive dans une culture qui l'attend et pas n'importe où dans la nature. Il ressent alors le fait qu'être ne suffit pas et s'impose à lui le besoin vital d'être parmi les autres et en fonction des autres. Ce qu'il est par essence n'a déjà plus beaucoup d'importance. Commence pour lui désormais le long et difficile travail de la construction identitaire. Construire son identité relève d'une dialectique complexe entre soi et les autres. C'est d'une part se situer par rapport aux désirs des autres, mais de ce fait également développer une forme d'amour-propre. C'est s'identifier à des choses plus qu'à d'autres, c'est vouloir être quelqu'un correspondant à cette identification, et donc cela implique de dégrossir en quelque sorte, sculpter le bloc de ce que l'on est par nature en effectuant un tri entre les éléments acceptables, compatibles avec l'idée qu'on a de soi-même, et les éléments moins compatibles. La construction identitaire et l'acquisition de l'amour de soi impliquent donc une forme d'autocensure répondant à une sorte d'ordre moral, interne, personnel. En gros, la culture doit contraindre la nature humaine, contenir son animalité. Ceci va provoquer chez l'être humain, coincé entre sa nature et la culture, un effet de division interne, une perte de vue de toute une partie de lui-même et un traitement sélectif des éléments de son vécu. Freud a modélisé ce tri, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au tout début du XXe siècle. Il l'a modélisé de manière suivante. Avant d'arriver dans la conscience, c'est-à-dire avant que nous ne prenions conscience d'avoir telle ou telle idée, de ressentir tel sentiment, etc., les éléments vont rencontrer une espèce de vigile, qu'on pourrait même s'amuser à imaginer comme un videur de boîte de nuit, qui sera à même d'attribuer un droit de passage ou pas en fonction de comment les éléments se présentent. Cette instance chargée du tri, Freud l'appellera dans un premier temps le préconscient. C'est la case obligatoire avant l'entrée dans la conscience. Plus tard, Freud affinera, complexifiera cette représentation, mais je m'en tiendrai à cette première topique, comme on l'appelle, car elle a le mérite d'être facilement intelligible. Donc, tout ce qui n'est pas compatible avec l'ambiance souhaitée de la boîte de nuit de la conscience, parce que pas habillé comme il faut, en tout cas ne présentant pas comme il faut, est contraint à demeurer dans l'inconscient, c'est-à-dire hors de la conscience. C'est ce que Freud appellera très logiquement le refoulement. Pour autant, ce qui est refoulé ne cesse pas d'exister, bien au contraire. Ça demeure sur le territoire de l'inconscient, bien plus vaste que la petite boîte de nuit de la conscience. Et étant donné qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que d'entrer dans cette boîte de nuit, qu'aucun plan B n'est possible, eh bien toute la charge pulsionnelle de ces éléments refoulés n'aura de cesse de se manifester d'une manière ou d'une autre, de faire pression, de tenter des incursions dans la boîte de nuit, bref, agir comme perturbateur d'un ordre établi qui tente à nier leur existence et leur place. Comme on dit, chassez-le par la porte, il revient par la fenêtre. C'est donc sur ce mode que va se vivre, se faire sentir la division interne dont je vous parlais tout à l'heure. Ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir étranger à vous-même, ou tout du moins de vous surprendre vous-même à l'occasion d'une émotion, d'un sentiment qui ne vous ressemble pas? Parfois même faire un geste, ou une parole qui vous échappe, un lapsus, un rêve qui vous semble des plus perturbants mais qui est pourtant le fruit de votre propre esprit? Eh bien, ce sont autant de manifestations de votre inconscient. L'aspect bizarre, absurde, incompréhensible vient du fait que vous n'avez accès qu'à un signe détaché d'un sens plus large, qu'à une toute petite partie, hors contexte, de ce quelque chose d'inconscient qui n'a pu se placer que sous une forme suffisamment mystérieuse pour tromper la vigilance du préconscient. La psychanalyse considère que toutes les formes de maladie mentale, qu'elles soient graves ou communes, ont à voir avec ce conflit interne constitutif de l'esprit humain. Freud identifiera l'inconscient comme bien plus influent sur la vie psychique d'un individu que les ressources de sa conscience, qu'il considérera de plus en plus comme une simple résultante, un compromis en quelque sorte entre les instances morales et l'inconscient. Il écrira cette phrase fondamentale en psychanalyse : le moi, comprenez le conscient, n'est pas maître dans sa propre demeure. Concrètement, en psychothérapie analytique, il va s'agir de saisir les manifestations de l'inconscient par un examen minutieux des moments racontés par le patient où ce dernier s'est ressenti étranger à lui-même, où quelque chose de lui-même lui a échappé. De ce petit quelque chose, il va s'agir de remonter le fil jusqu'à des éléments plus enfouis de l'inconscient qui vont se rapprocher du sens de ce qui cherche à se dire. Pour remonter ce fil, la méthode dite de l'association libre consiste à inviter le patient à dire tout ce qui lui passe par la tête à partir d'un point de départ, sans aucun souci moral ni de pertinence. Et maintenant que vous avez saisi le caractère moralement indésirable des éléments inconscients qui n'ont pas accès tel quel à la conscience, vous comprendrez peut-être mieux, je l'espère en tout cas, la première consigne d'un psychothérapeute à son patient, celle de parler en s'efforçant de n'exercer sur sa parole aucune forme d'autocensure. Merci d'avoir écouté ce prêt-à-penser qui touche à sa fin. Je vous retrouve dans 15 jours, toujours dans l'oreille curieuse et toujours sur Radio G.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux.
Super.